Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Génération Solutions sur Radio Grand Ciel qui vous présente un petit peu les idées pour prendre soin de la planète, les idées de demain. On va parler aujourd'hui permaculture avec un expert en la matière, c'est Xavier Mathias, notre invité sur RGC. Bonjour Xavier Mathias.
Bonjour.
Déjà cette première question toute simple, mais c'est quoi la définition de la permaculture ?
Ce serait justement la permaculture, si on sort de la pratique et de la technique, ce serait réussir à cultiver dans nos jardins avec cette idée qu'il faut vivre et laisser vivre et qu'il faut laisser sa part à la nature. C'est-à-dire que quand vous plantez 10 laitues, ce n'est pas pour en récolter 10. Nous n'en récolterons pas 10 parce qu'il y a des limaces qui vont passer par là. Voilà. Donc c'est laisser aussi sa part à la nature. Ce n'est pas se laisser dépouiller, mais quand même, à un moment, arrêter de viser le 100%.
On dit que c'est une philosophie de vie. Xavier Mathias, vous partagez cette vision ?
C'est exactement ça. C'est une pensée éthique et pratique. On vit dans un monde où, en fait, c'est un peu l'économique qui guide la pratique. C'est-à-dire que, voilà, j'achète tel matériel, tel outil, parce que j'ai les moyens, parce que je vais l'amortir, etc. Les permaculteurs, eux, voient pas du tout les choses comme ça. Et ils remettent, donc, l'humain, vraiment au centre, au cœur du propos, et nous disent, mais voilà, pensée éthique, avant de penser économique. Et c'est pas forcément simple, particulièrement pour les professionnels, quand on veut s'inclure dans un monde économique compliqué, effectivement. Donc, on est toujours un petit peu obligé à certaines compromissions.
Alors, est-ce que je peux dire que la permaculture, il y a déjà trois piliers qui sont importants à prendre en compte ? Le soin de la terre, soin des humains, et le dernier pilier, c'est partager équitablement les ressources.
Oui, c'est exactement ça. Et puis, ça me fait plaisir, moi, qu'on reprenne cette idée, puisque c'était l'idée des premiers agriculteurs bio. On remonte dans le temps, dans les années 60, où leur slogan, entre guillemets, c'était « prendre soin de la terre pour prendre soin des hommes », puisqu'ils sont partis de ce constat, c'est que là où on ne prend pas soin de la terre, on ne prend pas soin de l'humain. Et ce qui s'est complètement vérifié. Donc, effectivement, quand on est dans une idée permacole de culture, que ce soit potagère ou maraîchère, le sol redevient la terre, redevient l'axe. Il n'est plus un support de culture, il est vraiment un ensemble de vie complexe et c'est lui qui va complètement conduire notre pratique. Après, partager les ressources, par exemple, partager les ressources... c'est un vrai nouveau problème auquel on est confronté. On s'aperçoit que les ressources, elles ne sont pas indéfinies, loin de là. Et je pense aux ressources en énergie fossile, par exemple. Alors, est-ce qu'on a, là, je réduis un petit peu l'échelle, est-ce qu'on a un potager ou un jardin pour surconsommer l'énergie fossile, sachant que nous, ce qu'on veut utiliser, d'autres ne l'auront pas. Et en plus de ça, c'est souvent l'extraction de ces énergies à des mauvais côtés pour ceux chez qui on les extrait. Donc c'est vraiment ça, quoi, partager les ressources équitablement.
Alors est-ce qu'en France, on peut jardiner en permaculture ? Alors quelle que soit ma région, mon département, qu'il soit pluvieux ou même très sec ?
Oui, complètement. C'est ça qui est génial. C'est l'idée de se dire, voilà, on va pas voir la permaculture comme une pratique stricte avec des règles vraiment... non, on doit inventer notre chemin en respectant complètement un esprit. Donc le mot permaculture, il est apparu aux États-Unis au début du 20e, complètement oublié. Et ces deux Australiens, Bill Mollison et Dave Holmgreen, qui en 1978 le reprennent à leur compte et lui donnent le sens qu'on lui connaît maintenant. La permaculture, donc telle qu'on la conçoit, telle qu'on la connaît, ce sont deux universitaires australiens qui l'ont créé, entre guillemets. Peut-on créer une agriculture ? Je ne sais pas.
Question pratique, mais permaculture, ça demande plus ou moins de travail que de jardiner de façon plus conventionnelle, Xavier et Mathias ?
Alors, ça demande beaucoup plus de travail. Eh oui, ça c'est l'excellente nouvelle en fait, parce que ça demande plus de travail, mais c'est un travail qui est complètement différent. Oui, ça demande plus de temps. Par contre, les résultats sont assez phénoménaux. Il est vrai aussi que physiquement, ça fait quand même beaucoup moins mal que le bêchage avec retournement de sol classique. Il est vrai que la microfaune du sol raffole de ces couches en lasagne. Donc voilà, oui, effectivement, c'est plus de travail, mais c'est surtout, j'ai envie de dire, un travail qui est complètement différent, qui s'accomplit pas du tout de la même manière.
Autre question pratique, mais qui a son importance aujourd'hui, ça coûte plus cher ou moins cher de jardiner en permaculture ?
Alors, ça coûte nettement moins cher, par contre, puisqu'on a comme principe ne pas produire de déchets. Alors, ne pas produire de déchets au jardin, c'est facile, puisque le mot déchet, à la limite, il n'existe pas. Ce sont des ressources. Voilà, un coup de tondeuse, et l'herbe coupée, c'est une ressource qui va être riche en azote. Vous taillez votre haie, si ce n'est pas une haie de thuyade conifère un peu bécasson, on va dire, ça vous permet d'avoir une super matière brune, etc. Donc là, comme on réutilise tout, comme on essaye d'avoir une vision d'être dans un cycle où on rend au sol ce qui vient du sol, en limitant au maximum l'usage des énergies fossiles, alors là, par contre, oui, effectivement, c'est plus de travail parce qu'il n'y a qu'une seule manière de remplacer l'énergie fossile, c'est d'utiliser la seule énergie renouvelable, la nôtre.
Est-ce qu'il faut une surface minimum d'ailleurs ? Est-ce qu'il est possible, par exemple, voilà, on a son jardin, mais est-ce qu'il est possible de faire de la permaculture dans un appartement, sur son balcon ?
Alors moi, j'ai envie de vous dire oui. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas du tout besoin d'une surface minimum pour s'inspirer de ces méthodes, pour s'appuyer sur la biodiversité, pour ne pas produire de déchets, etc. etc. Oui, bien, vous pouvez, même sur une toute petite surface, effectivement vous inspirer de la permaculture. On ne va pas construire des gros systèmes, on ne va pas aller vers plus d'autonomie alimentaire, mais déjà, c'est un ensemble de petits pas qu'on fait.
Et alors, question beaucoup plus globale maintenant, mais quels sont les avantages de la permaculture pour la planète ?
Ah, ça c'est une jolie question. C'est compliqué de répondre parce que en fait, c'est assez présomptueux. Moi, je pense réellement que ça va être un plus pour la planète à partir du moment où ça va nous ramener, nous aussi, à un petit peu d'humilité, c'est-à-dire que c'est une forme d'agriculture que nous, on pratique, que nous, on promeut, qu'on défend, etc., à la condition expresse que tout le monde, toutes les civilisations puissent pratiquer la leur.
Ouais, c'est aussi cet intérêt, pas de pesticides, les animaux reviennent, pas de produits chimiques. Xavier Matas, est-ce qu'il y a un inconvénient ? Et s'il y en avait un, ce serait lequel ?
Ah, tiens, je me suis jamais posé la question, vous faites bien de me la poser comme ça. S'il y avait un inconvénient à la permaculture, il y en a un. C'est qu'elle est mal adaptée. Si on veut la pratiquer stricto sensu, elle est mal adaptée à un monde économique qui est dur, où il y a besoin d'une rentabilité, où effectivement la main-d'œuvre, notre main-d'œuvre, coûte cher. Donc c'est compliqué d'adapter cette idée de permaculture au sens strict, à une pratique agricole professionnelle.
Retour dans votre émission Génération Solutions sur RGC. On parle de permaculture avec Xavier Mathias. Xavier, pourquoi on parle de zone en permaculture? Zone 1, 2, 3, 4, etc.
Donc, en fait, c'est... J'ai acheté une petite maison et j'ai envie de commencer mon jardin. Une fois que j'ai tenu compte de l'exposition, où est-ce que je fais le potager? Où est-ce que je fais le poulailler? Où est-ce que je mets les arbres fruitiers? Où est-ce que je mets mon atelier pour les outils, etc. Les permaculteurs, ils ont une réponse hyper simple. La première des énergies renouvelables, c'est l'énergie humaine. Alors ne perdez pas votre énergie dans des déplacements qui ne sont pas nécessaires. Donc le potager, on doit y aller régulièrement. Donc il est tout près de la maison, c'est la zone 1. Si vous voulez avoir une serre, effectivement, il faut y aller aussi au quotidien. Donc, ça va être dans la zone 1. Par contre, des arbres fruitiers, vous pouvez les éloigner de la maison. Vous pouvez, donc, la zone 3, elle, est plus éloignée de la maison, etc. Puisque ça ne demande pas une visite quotidienne. C'est tout simplement ça, le zonage. Le zonage, c'est une idée géniale, à mon avis, des permaculteurs. Ça nous permet aussi de profiter d'aménagements extrêmement simples. Il est vrai que moi, je suis surpris. Là, je ne connais pas votre jardin, mais je peux vous dire tout de suite quelle est la meilleure zone de votre jardin. La meilleure zone de votre jardin, sans l'avoir vu, je peux vous dire que c'est la façade plein sud de votre maison. Voilà, c'est le meilleur endroit. Et comment se fait-il qu'on réserve la plantation de rosiers ou de plantes d'ornement à cet endroit qui est le meilleur? Pour des plantes qui n'en ont pas forcément besoin. Donc la permaculture, en plus de ce zonage, nous rappelle que une maison, c'est aussi 4 microclimats. Donc si vous plantez les tomates cerises, si vous voulez que ça marche, vous faites des tomates cerises, vous les plantez, mais à la porte, sur la façade sud, comme ça vous n'allez pas en perdre une seule, vous allez vous régaler et elles vont profiter du microclimat généré par la maison. Je vous donne un autre exemple rapide. Il y a, vous savez, la verveine citronnelle, c'est une petite merveille pour faire des infusions. Oui, mais la verveine citronnelle, elle n'est pas très fan du froid. Donc il lui faut une situation un peu privilégiée. Il est quand même dommage de la mettre à l'autre bout de son terrain, alors que sur la façade plein sud de la maison, non seulement ça sent très bon, c'est très joli, c'est très élégant, et en plus de ça, vous ouvrez la fenêtre, et là je fais le malin, mais parce que c'est notre cas, on ouvre la fenêtre de la pièce où on déjeune, on attrape des feuilles de verveine citronnelle qu'on peut infuser directement, ça c'est quand même bien.
Alors là, ce sont les bases pour apprendre. Est-ce qu'il y a des livres pour les débutants, justement?
Alors, oui, il existe deux ouvrages qui s'appellent Permaculture 1 et 2 qui ont été écrits par les fondateurs de la permaculture. Ce sont des ouvrages néanmoins qui sont un peu techniques et qui peuvent un petit peu effrayer par le dimensionnement. Mais théoriquement, c'est ça que je devrais conseiller directement. Après, dans la collection Je passe à l'acte chez Actes Sud, on a écrit deux petits ouvrages. Le premier tome, c'est Nelly Ponce qui l'a écrit, et puis moi j'ai écrit le volume 2 sur cette idée justement de faire son jardin en s'inspirant de la permaculture. Voilà deux tout petits ouvrages co-édités par Actes Sud et Kaizen.
Xavier Mathias, ça prend combien de temps pour apprendre à jardiner en permaculture? Vous allez me dire toute une vie, je suis sûr.
Quand on reprend un peu un sol qui a été un peu maltraité, parce que pelouse, parce que ceci, parce que cela, moi je dis qu'il faut à peu près 4 ans pour que le sol vraiment retrouve une vie et que le milieu dans lequel il est retrouve une harmonie. En 3-4 ans, c'est bien. Et je pense que le sol, le milieu dans lequel on évolue, à partir du moment où on ne le maltraite pas, participe de nous former, de nous apprendre plein de choses. Donc moi, je dirais qu'en 3-4 ans, je vous assure que les résultats peuvent être tout à fait spectaculaires.
J'aimerais revenir avec vous sur une notion, celle de mauvaise herbe. C'est vrai que c'est curieux cette appellation, parce qu'une herbe, c'est pas mal, c'est là pour respecter aussi un équilibre de base.
Oui, clairement, l'expression mauvaise herbe, ça ne nous va pas du tout. Alors, en général, on triche un peu en disant les adventices, donc celles qui sont présentes. On part vraiment du principe que ces herbes qui sont présentes sur le terrain sont ce qu'on appelle bio-indicatrices, c'est-à-dire que si elles sont là, effectivement, il y a une raison, effectivement, elles nous apprennent plein de choses sur notre sol. Après, il va falloir qu'on apprenne à partager aussi et qu'elles apprennent à partager avec nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un jardin qui soit rempli d'orties, par exemple. Ce n'est pas possible parce que ça va nuire à notre production. Mais néanmoins, l'ortie, on sait que c'est 24 espèces de papillons européens dessus. On sait que c'est une protéine équilibrée. Donc, on va maintenir quand même au minimum un petit spot d'ortie aussi pour tous les usages au jardin qu'on va en avoir. Donc ces adventices, je dis pas qu'il faut se laisser envahir par elles, mais toujours se dire quand même qu'elles sont là pour nous apprendre quelque chose sur notre terrain et sur nos pratiques. Voilà, et que on peut en profiter donc de mille manières de ces plantes-là.
Si la permaculture est si formidable, justement, on l'entend avec ce que vous nous dites, qu'est-ce qui fait qu'on ne s'y met pas tous ?
Alors, moi, je pense que déjà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jardiniers qui sont comme Monsieur Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir, et qui font partie des gens qui nous inspirent aussi, parce que, attention, j'aime pas trop l'idée de se dire qu'on a inventé un truc, etc., etc., qu'on va révolutionner le monde. Non, 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 non. On s'inspire de pratiques plus anciennes. Donc, il y a ça d'une part. D'autre part, il y a aussi... Alors là, je voudrais pas montrer trop critique, trop dur, mais il y a une espèce de... Je sais pas comment dire, mais de paresse qui s'est installée parce que donc il y a cette habitude qui s'est prise quand même beaucoup 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 on a tous, et moi le premier, des comportements un petit peu aberrants, c'est-à-dire que là et moi il y a un endroit à la maison où je tombe. Voilà, jetons avec une tondeuse. Donc voilà, on va essayer de reprendre un petit peu l'œil du permaculteur là-dessus. Tondre avec une tondeuse, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire supprimer une énergie verte avec une énergie fossile. Voilà, tout simplement. Donc en fait, cette idée de permaculture, elle va reprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos habitudes. Et puis, moi, je trouve qu'il ne faut pas se flageller. Il ne faut pas se dire que c'est impossible, et comme c'est impossible, je ne fais pas, c'est plus facile. Mais se dire que voilà, c'est un curseur qu'on doit ramener tranquillement, celui d'une surconsommation d'énergie, pour arriver à une pratique qui soit plus raisonnable. Et là, effectivement, et franchement, c'est une pratique qui est meilleure pour l'humain aussi, quoi. C'est nous qui en profitons quand même, hein, beaucoup.
Il faut vraiment sortir de l'image du jardin bien lisse. Vous avez toujours, Xavier Mathias, jardiné en permaculture. Vous avez commencé quand ?
Ah, alors moi j'ai commencé gamin. Donc ça fait, là, comme je commence à prendre de l'âge, ça fait quand même des années, des années, des années. Non, par contre, j'ai toujours été en bio. Et ça me paraissait une évidence. Alors quand cette pensée permaculture est arrivée, pour être honnête, moi je pensais pas du tout que ça rencontrerait un tel succès. Et donc on restait un petit peu dans le bois, quoi.
Un grand merci Xavier Mathias d'avoir été avec nous dans cette émission Génération Solutions sur Radio Grand Ciel. C'était un riche d'enseignements, c'est un vrai plaisir en tout cas. Merci de nous avoir éclairé aujourd'hui. Génération Solutions en réécoute sur le site de Radio Grand Ciel. Et nous on se donne rendez-vous le mois prochain. Ciao.
Hier, comme si l'endroit faisait l'envers, comme si les images s'arrêtaient et que les belles heures défilaient. C'est comme si c'était demain, comme si le soir venait le matin, comme si la grande tournait et que l'horloge
été et que la mécanique s'essoufflait. Le temps passe, on est vite, ne passons pas trop vite. Le temps passe, on est vite, ne passons pas trop vite. C'est comme si c'était fini, comme si la mémoire servait l'oubli, comme si nos rêves souvenaient pas. Ce n'est pas. C'est comme si c'était toujours, comme si nos nuits étaient nos jours, comme si le soleil vous détoit et que les étoiles ne brillaient pas. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite.
C'est comme si j'étais devenu un monstre d'amour. Mes jambes flanchent, mon cœur est lourd. Je finirai par m'étouffer dans tout ce velours. J'ai beau hurler, mes cris sont sourds. Transformé en monstre d'amour, et j'ai perdu famille et bravoure. Mes yeux ont appris par cœur tes formes et tes contours. Ils les devinent quand s'éteint le jour. Dis-moi, quelle est
Come dance with me, we're not that shallow. Step back and you see, dry clouds they grow. And I do please, come dance with me. Great dreams are to follow. And when you get me, it feels like I start slow. Falling into deep. Low, the air is on me. Stick around, you're my soul.